Du Sahara aux Cévennes, c'est un gardien de la terre, un ange venu du soleil algérien et coranique, confié au langage voltairien et catholique. Pierre Rabhi, fils d'une histoire coloniale française, qui a enfanté chez lui plus qu'une double culture, un transfert de culture, eh bien il est là dans le fauteuil d'un sol majeur, avec presque son petit chapeau de paille d'humaniste terrien. Vous le connaissez bien, Pierre Rabhi, il intervient souvent sur nos ondes en tant que pionnier d'une agriculture biologique et inventeur du concept oasis en tout lieu. À 72 ans, ce penseur français d'origine algérienne milite pour que sur la terre et jusque dans les pays arides de l'Afrique, on cultive son jardin au sens premier du terme. À lire pour les fêtes de Noël ou de l'Aïd, hein, c'est jamais trop tard, un coffret qui paraît chez Albin Michel intitulé « Un humaniste au service de la terre-mère ».
Un homme simple, habitant une petite oasis du sud algérien, chaque jour vaque à ses occupations de père nourricier. Il ouvre la porte de son atelier de forge, allume le feu et, le jour durant, va travailler le métal. Il entretient les outils aratoires des cultivateurs, répare les modestes objets du quotidien. Ce petit vulcain du désert fait toute la journée chanter l'enclume, un apprenti durant sur la corde du soufflet de la forge pour attiser les flammes. Des étincelles incandescentes jaillissent du marteau de l'artisan en une nuée d'étoiles fugaces et tout à son travail, il est comme absent du monde. Un enfant silencieux le regarde et l'admire, en est fier, immensément.
Bonjour Pierre Rabhi.
Bonjour.
Alors curieusement, c'est avec ce texte tiré de votre livre « Vers la sobriété heureuse » chez Actes Sud que j'ai eu envie d'ouvrir l'émission. Car à travers ce texte, on sent bien que l'agriculteur ardéchois que vous êtes aujourd'hui est toujours un petit peu le fils de ce forgeron algérien qui apparaît dans ce texte.
Oui, il n'y a jamais eu de rupture entre ce souvenir que je viens d'évoquer. Je dirais même que c'est ce souvenir qui a déterminé ce qui allait se passer plus tard, c'est-à-dire ce que j'appelle moi mon insurrection par rapport un peu au dogme absolu de la modernité. Donc c'est bien, c'est un héritage, c'est pas seulement un héritage, mais quelque chose qui m'a, sans que je le sache, qui est rentré dans mon inconscient, mais qui a déterminé beaucoup la suite de mes choix.
Donc j'ai eu une bonne intuition, enfin si j'ose dire, vous m'avez mis des petits cailloux pour aller jusqu'à vous, c'est-à-dire tous vos ouvrages. Votre concept Oasis en tout lieu est bien né inconsciemment durant ces premières heures dans ce sud algérien des années 40-50 comme ça, lorsque vous observiez les moindres faits et gestes de votre famille pour rentabiliser et conserver au mieux le fruit de la terre.
C'est vrai que ça a été en quelque sorte l'ensemencement. Ensuite, je suis rentré dans la civilisation moderne et je suis allé aussi dans la culture européenne. Dont il y a une partie de cette culture que je m'attribue et j'en suis totalement fier. Et puis il y a la partie disons modernité dans laquelle je ne suis pas tout à fait à l'aise. Voilà. Ouais. Alors
vous étiez à l'aise dans ce désert?
Alors, on a tendance probablement à magnifier notre passé et notre enfance, mais objectivement, oui, j'étais bien. J'étais bien, j'étais les pieds dans la poussière, peut-être la morvonnée, je ne sais pas, étant enfant. Et j'avais une sensation d'exaltation que provoquent d'ailleurs les grands espaces, probablement. Et donc, j'ai aimé immensément cette vie. Mais le destin a fait que je n'ai pas pu poursuivre cette vie-là, la modernité arrivant, les bouleversements arrivant. Donc je suis devenu un biculture, un double culture. Et quand on sait tous ceux qui sont dans cette double culture, finalement, ils sont obligés de trouver le chemin médian.
Bon. On va la raconter, votre double culture. Je sais pas d'ailleurs, hein, si on doit vraiment parler de double culture à votre sujet, c'est plus compliqué que ça. J'en profite puisque vous avez votre casquette d'écologiste sur la tête, hein, votre chapeau de paille de paysan, il attend à côté. J'en profite pour annoncer la naissance de la fondation Pierre Rabhi, c'est tout nouveau. Elle a quelle vocation, cette fondation?
Il se trouve que maintenant, sans l'avoir recherché, sans l'avoir Ben, je suis devenu une espèce d'expert international en matière d'agroécologie. L'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui concernant et l'agriculture et la question alimentaire fait que beaucoup de gens se tournent vers moi pour me demander, ben, apprenez-nous vos méthodes, parce que ces méthodes sont justes, parce que elles nous coûtent pas cher, elles régénèrent les sols, elles nous permettent de se nourrir d'une denrée alimentaire de qualité, etc., etc. Et comme la demande ne cesse de croître, eh bien, il faut des moyens. Et les moyens se trouvent trop faibles par rapport à ce qui serait nécessaire pour répondre à cette demande. Et c'est la raison pour laquelle on a créé la Fondation Pérabi.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, vous qui êtes pour replacer l'homme, finalement, au centre de tout, est-ce que vous êtes plutôt du côté du bon Dieu ou du côté du diable, Pierre Rabhi?
Alors ça, je le saurai peut-être un jour.
C'était une manière, c'était une boutade en fait pour vous demander si vous étiez bien du côté de Jacques Brel. Mais oui, puisque vous l'avez programmé en sol majeur avec cette chanson, Le Diable.
Oui, c'est parce que cette chanson m'avait frappé. C'était parmi les premières chansons de Jacques Brel, puisque j'étais ce qu'on appelle un fan de Jacques Brel depuis très jeune, déjà adolescent. Et cette chanson qu'il avait chantée me paraissait applicable aujourd'hui à la marge du monde. Voilà.
C'est-à-dire?
Eh ben, c'est-à-dire un monde finalement qui a tout renié et qui a donné les pleins pouvoirs à l'argent, au lucre. Je diabolise pas évidemment l'argent parce qu'il est utile quand il joue son rôle normal. Mais aujourd'hui, l'argent est devenu maître du monde et donc cette chanson me paraissait même prémonitoire en quelque sorte.
Un jour le diable vint sur terre. Un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Des trains déraillent avec fracas, parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va.
Ce diable de Jacques Brel sur RFI est dans le programme de notre invité Pierre Rabhi qui se marre en écoutant cette chanson. Pierre Rabhi, penseur qui a la main verte et le cœur bleu, blanc, rouge depuis ses premiers pas en Algérie. Petit flashback en sol majeur.
P
comme photo de famille.
Zain. Ret. Tête. Yud.
Vous êtes né en 1938 à Kednassa, une ville saharienne d'Algérie.
Oui.
Et sur la photo qui date de 1942, vous avez quelque chose comme 4 ans. Et quand vous recherchez dans l'ultime couche de vos souvenirs, de vos premiers souvenirs, il vous reste quelles images de votre mère biologique ?
une femme pleine d'attention, d'amour, et qui passait son temps à me bécoter. Malheureusement, morte quand je n'avais que 4 ans, j'ai... D'ailleurs, c'est un de mes grands problèmes, c'est qu'elle a disparu sans que j'en ai fixé les traits, où là, il n'y avait pas de photo, il n'y avait pas... Et souvent, je me dis, mais si j'avais au moins une photo pour savoir quel est cet être qui m'a mis au monde. Alors, les seuls souvenirs que j'ai sont dans, un peu dans le clair-obscur. Et une chose qui m'est restée, c'est qu'elle dansait jusqu'à la transe, et j'ai vu une fois une de ces transes. Et ça m'a évidemment mis dans une espèce de panique terrible de voir ma mère s'effondrer après une grande danse. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est son sein, qui avait peut-être cessé de me nourrir, mais qui était là, omniprésent, dans mon souvenir, comme étant le lien par lequel je reste à 72 ans attaché encore à ce sein maternel qui ne s'est jamais dissipé.
Alors il y a aussi sur la photo une autre femme. C'est votre grand-mère que vous adoriez. Elle venait de quelle tribu ?
Nous étions des Maures. Et cette femme était le prototype des êtres humains du désert. Des jambes longues, avec des marcheurs, des traits négroïdes mais adoucis. Quand on l'approchait, c'était en fait la bonté et l'amour qu'elle diffusait, comme ça, malgré elle.
Vous avez grandi, je vous cite Pierre Rabhi, sous un soleil despote dans un village de briques jaune-ocre, sous le regard des djinns, dans l'odeur du cumin, la plainte d'un dromadaire et la musique de l'enclume de l'atelier de votre père, dans un désert parcouru de petits vents simples d'esprit. Seulement voilà qu'un jour, on va vous arracher à ce paysage et à la gandoura blanche de votre père, qui, à la disparition de votre mère, se trouve un peu comme encombré de vous. Et il va vous confier à une roumie, comme on dit.
Oui.
Alors vous vous souvenez bien de ce jour difficile où vous êtes confié à des Français alors que vous avez une sale image des Européens.
J'étais trop petit pour avoir vraiment une opinion forte de ce que signifiait. Mais je me souviens comme si c'était hier ou même aujourd'hui, au moment où il y a eu la transaction. C'est-à-dire où mon père m'a confié à cette femme blanche, cette européenne. Et je me souviens, il me tenait par la main. J'avais ma main crispée sur son index ou sur son doigt, sur sa main. Et il me remet à cette femme qui m'a d'emblée, de part, parce qu'elle était blonde, etc., m'a quelque part terrifié, quoi.
Alors quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'il vous confie à ces roumis?
Parce que lui-même, ayant subi une sorte de déconvenue, parce qu'il était forgeron, il était musicien, il était poète.
Il jouait du oud.
Il jouait du oud. Et finalement, les Français découvrent du charbon dans notre pays. Et pour exploiter ce charbon, on recrute des gens qui deviennent des mineurs. Et du coup, lui, ceux pour qui il travaillait, dont il forgeait les outils, etc., se trouve ne plus lui demander de service. Et donc, il devient chômeur.
Oui, mais pourquoi de là à vous confier véritablement, à confier votre éducation à des Français, c'est quand même...
Parce que ayant lui-même été en quelque sorte mis en échec par ce nouveau système, il disait maintenant, l'ordre du monde, c'est les Blancs qui le détiennent. Et donc la civilisation qui va dominer, il en a eu l'intuition, c'est la civilisation des Européens. Donc il faut que mon enfant soit initié à cette civilisation, tout en restant un bon musulman, bien entendu.
Alors voilà, ça c'est important pour lui. Il tient à ce que vous receviez une éducation coranique des plus poussées.
Tout à fait. Disons, dans la convention entre mon père et ma nouvelle famille, c'était que je reste un bon musulman, tout en étant instruit, évidemment, des secrets, des connaissances modernes pour me permettre, finalement, d'avoir une bonne place dans cette nouvelle société.
Alors, s'ensuit une période d'apprivoisement des deux côtés,
oui,
de cette famille de Roumi vis-à-vis de vous et de vous, petit musulman, petit indigène.
Imaginez un enfant qui part d'une société traditionnelle, séculaire, qui n'avait à peine changé, le feu au milieu de la pièce, on est autour du feu, on fait tout d'un coup plonger dans le monde des brosses à dents,
des chaises,
des tables, de l'hygiène,
et des Jésus crucifiés.
Jésus crucifié, puisque là, il y avait une contradiction dans le sens où quand j'allais à l'école coranique, le credo de l'islam, c'est que Dieu n'a pas engendré, il est transcendant. Et de l'autre côté, ma mère qui m'explique que dans sa religion, Dieu a un fils qui s'appelle Jésus et que ce fils est venu pour sauver le monde, etc. Et donc, en tout cas, j'étais très résistant par rapport aux préceptes chrétiens, puisqu'ils étaient en contradiction avec les préceptes fondamentaux qu'on m'a enseigné à la médersa.
Donc vous allez avoir un long moment entre cette vie de petit indigène musulman qui ne s'estompe pas complètement et définitivement en un seul jour, on s'en doute, et cette nouvelle petite vie de petit catholique, hein, parce que c'est ce qui va vous arriver. Pendant un certain temps, vous ne savez pas à quel clan vous appartenez, Pierre Rabhi.
Oui, c'est ce qui a été même tellement énorme que ça m'a bloqué pendant des années, où je ne parlais presque plus parce que j'étais dans une espèce de songe. Même à l'école, j'avais du mal à suivre à l'école, non pas parce que je suis totalement idiot, je pouvais parfaitement suivre, mais en fait, j'avais l'impression que l'introduction à tout ça n'avait pas été faite, c'est-à-dire le préambule qui était nécessaire, et moi, pour moi, c'était d'abord ma propre identité. Qui suis-je? Et qui a raison? Est-ce que c'est les musulmans? Est-ce que c'est les catholiques? Et donc on est un peu déconcerté et notre pensée va plutôt vers d'une façon très précoce vers finalement qu'est-ce que l'humain? Et là j'ai fréquenté beaucoup les penseurs, les philosophes, les humanistes, etc.
Alors un beau jour, loin du luth andalou de votre père, vous découvrez la musique classique. Vous êtes un fan absolu, par exemple, de Sibelius, qu'on va écouter.
Oui.
Pourquoi Sibelius, en particulier, compositeur finlandais, hein. C'est un compositeur qui vous rappelle l'Algérie?
Disons, il y a le désert de sable et torride, et il y a le désert glacé aussi. Et ces deux déserts, qu'ils soient chauds ou froids, c'est du désert. Et il m'a semblé que dans Sibelius, j'ai retrouvé les tonalités qui évoquaient, en quelque sorte, cette vastitude.